La terre, elle brille, en fait, elle est d'un bleu brillant, elle lui.
Houston, we have a problem.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
L'histoire de l'espace.
Puis la Terre, c'est immense, on est vraiment tout petit.
En visitant des planètes, nous sommes de nouveau Christophe Colomb, qui découvrons des terres nouvelles, qui jusqu'à présent n'étaient que les petits points de lumière dans le ciel, d'une part. Et d'autre part, nous plaçons des engins qui reçoivent les lumières X, gamma, infrarouge, ultraviolet, de toutes les longueurs d'onde. Et ces lumières de toutes les longueurs d'onde nous apportent toute l'information des astres, information que jusqu'à présent nous n'avions pas.
Creating a self-sustaining civilization on Mars. It would be the greatest adventure ever.
Allez, on est toujours en direct, c'est notre journal en ce mercredi 27 mai. On va commencer par souhaiter la bienvenue à Michel. Michel, bonjour, bienvenue chez vous.
Bonjour Joël.
Et avant que vous commenciez votre chronique, voilà, je vous laisse présenter, ce sont vos invités, ce sont les nôtres aussi, mais voilà, si vous voulez faire le petit coucou amical, je m'y associerai bien sûr.
Donc comme à chaque fois qu'il y a une opération nationale ou même mondiale là, pour On the Moon Again, concernant l'astronomie, plutôt que de parler des petites choses que je fais loin d'ici, en Dordogne, dans mon petit village, je préfère inviter les clubs d'astronomie de la région pour parler de ce qu'eux proposeront. Donc on a, comme d'habitude, Corinne Bourdins, présidente d'AG33, Astronomie Gironde 33, et Thierry Gélas, président de la SAB, la Société Astronomique de Bordeaux. Et comme l'a dit Joël tout à l'heure, d'habitude on a aussi Vega de la Lyre, représenté par Serge Gradatour, mais il se trouve que cette année ils ne font rien pour On the Moon Again, exceptionnellement. Donc il ne participe pas aujourd'hui, mais il viendra fin juillet pour nous parler des Nuits des Étoiles.
Voilà, donc bienvenue Corinne et Thierry, puis Serge, voilà, on aura l'occasion de se croiser. Allez, vous allez ouvrir, Michel, votre chronique par l'actualité, bien sûr. C'est chronologique, c'est logique, et notamment un essai du faisceau Starship attendu depuis des mois.
Alors en effet, la semaine dernière, le vendredi 22 mai, SpaceX a procédé au 12e tir d'essai d'un vaisseau spatial Starship, mais c'était une première pour la nouvelle version V3, plus puissante que les précédentes, équipée de nouveaux moteurs Raptor 3 et l'utilisation d'un nouveau pas de tir de la base de Boca Chica au Texas. Ce lancement s'est beaucoup fait attendre depuis l'essai précédent de la version 2 qui remonte au 14 octobre dernier, il y a plus de 7 mois, alors que SpaceX nous avait habitués à une cadence plus élevée avec un essai tous les 2 à 3 mois en 2025. Il faut dire que la société a dû faire face à différents problèmes, notamment l'explosion du nouveau booster lors d'un essai au sol le 21 novembre, ou encore le 3 mai dernier lors d'un test du système de refroidissement du pas de tir avec des jets d'eau à haute pression, c'est ce qui produit le gros panache blanc visible à la base des fusées au décollage, mais qui cette fois avait projeté des débris alentour, dont un gros morceau qui a atterri sur le toit d'un des bâtiments de la base. Au fil de ces difficultés, ce premier vol de la version 3 du Starship, qui est attendu fin 2025, a reculé jusqu'à cette fin mai. Programmé initialement pour le mardi 19, ce tir a dû être reporté une première fois en raison d'une mauvaise météo. La tentative du jeudi 21 a été abandonnée après plusieurs reprises de la phase finale du compte à rebours, à 40 secondes de la mise à feu, car les techniciens n'ont pas réussi à résoudre les anomalies détectées sur la nouvelle tour de lancement, dont un bras ne s'est pas rétracté comme prévu. C'est donc le lendemain, vendredi, que le décollage a pu avoir lieu à 17h30 heure du Texas, minuit et demi en France, pour un vol suborbital d'environ 1h05, c'est-à-dire en atteignant l'espace à plus de 100 km d'altitude, mais sans effectuer une orbite complète autour de la Terre. Le trajet du vaisseau parti du Texas s'étant terminé dans l'océan Indien, au large de l'Indonésie, ce qui représente à peine plus de la moitié d'un tour de la Terre. Dans l'ensemble, l'essai semble s'être plutôt bien déroulé, vu par les spectateurs qui l'ont suivi en direct, comme moi, mais c'est loin d'être une réussite totale.
Alors Michel, il y a eu des problèmes techniques.
Effectivement, et surtout pour les nouveaux moteurs Raptor 3, environ 10% plus puissants que la version précédente, tout en étant 100 kg plus léger. Un gain en masse pas négligeable quand on sait que le premier étage de la fusée, le booster Super Heavy, est équipé de 33 moteurs, soit une économie de presque 3 tonnes et demie pour une poussée plus forte. Dans le domaine spatial, le poids est une donnée cruciale pour l'efficacité des lanceurs. Mais le bilan est plus que mitigé, car seulement 1 minute 42 secondes après le tir, l'un d'eux a cessé de fonctionner, alors que le booster doit pousser encore presque 1 minute de plus jusqu'à la séparation des 2 étages, qui s'est déroulée sans encombre. Pour ce test, il n'était pas prévu que le Super Heavy revienne au pas de tir pour être capturé en douceur par la tour de lancement en vue de sa future réutilisation, une manœuvre qui nous a valu des images impressionnantes lors de 3 lancements précédents en 2024 et 2025. Vu les incertitudes concernant le bon fonctionnement de ces nouveaux moteurs, SpaceX avait choisi de le faire plonger en douceur, en simulant un retour contrôlé à seulement quelques kilomètres de la base, dans les eaux du golfe du Mexique, et pas le golfe d'Amérique, comme il est dit dans la communication de la société pour plaire à Trump. C'était une sage décision, car suite à un dysfonctionnement des moteurs qui devait freiner sa descente, le booster s'est crashé à plus de 1500 km/h. Le problème de moteur a aussi touché le Starship lui-même, puisque 3 minutes après la séparation, un de ses 6 moteurs s'est arrêté, l'un des 3 conçus pour fonctionner dans le vide spatial, les 3 autres étant optimisés pour l'atmosphère à basse altitude. Pour compenser, la poussée a été prolongée plus longtemps, mais cela n'a pas permis d'atteindre la trajectoire prévue. En raison de cet incident, il a été décidé de renoncer à l'un des tests envisagés lors du vol, qui consistait à rallumer un moteur dans l'espace. Manœuvre indispensable pour les futures missions du Starship, notamment dans le cadre du programme lunaire Artemis.
Alors, est-ce que les autres tests se sont bien déroulés ou y a-t-il eu d'autres problèmes ?
Alors, pour le reste, c'était plutôt réussi, notamment la simulation de largage de satellites Starlink de nouvelle génération. En réalité, 22 satellites factices de même masse et forme que les vrais, ce qui nous a valu des images inédites, car le dernier était équipé d'une caméra permettant de voir en direct le largage vu par le satellite, avec la lente sortie de la soute par l'étroite porte ouverte sur l'espace, puis une fois à l'extérieur, l'éloignement du Starship, qu'on pouvait voir en vol, grâce à des projecteurs pour l'éclairer, car la manœuvre se déroulait alors que le vaisseau était plongé dans l'ombre de la Terre. Je rappelle à nos auditeurs que si on parle beaucoup du Starship pour ses futures missions humaines, notamment dans le cadre du retour sur la Lune avec le programme Artemis de la NASA, sa mise au point est cruciale pour SpaceX afin de poursuivre le déploiement de sa méga constellation de satellites Starlink, proposant un accès Internet direct partout sur Terre. En effet, jusqu'à présent, c'est le lanceur Falcon 9 qui assure le lancement de groupes de 24 à 30 satellites, en moyenne 2 à 3 fois par semaine. Par exemple, cette semaine, il y en a eu un hier, il y en aura un autre vendredi, samedi et lundi. Pour un total actuel de 10 000 environ, la société restant assez vague sur ce nombre, sur les 12 000 de la première phase de déploiement et 42 000 visés dans une deuxième phase. Mais la nouvelle version V2 avec des capacités de communication supérieures que SpaceX souhaite envoyer dans l'espace sont beaucoup plus lourds, environ 1,5 tonne au lieu de 300 kg, et plus gros, ce qui les rend incompatibles avec ce lanceur Falcon 9 qui doit être remplacé par le Starship pour ses missions. Pour revenir à l'essai de vendredi, le vaisseau a commencé sa rentrée atmosphérique environ 3/4 d'heure après le tir, à 26 000 km/h, et sa protection thermique couvrant seulement la moitié de sa coque, un peu comme les anciennes navettes spatiales, lui a permis de réussir sans dégâts cette phase infernale où la température peut dépasser 1000 degrés. En utilisant les gouvernes, qui ont bien résisté à l'échauffement alors qu'elles avaient été sévèrement endommagées lors des essais précédents, l'engin est censé avoir simulé un retour en douceur à la base, car à terme, il doit être réutilisable. Freiné par les moteurs allumés, qui l'ont orienté à la verticale, il a atteint en douceur la surface de l'océan Indien dans la zone prévue, ce qui a permis de le filmer de près par une des petites bouées flottantes déployées à cet effet, avant de basculer sur le côté et finir dans une explosion spectaculaire. Il semble que cette fin violente était prévue, mais je dois dire qu'elle m'a un peu surpris.
Donc globalement, Michel, ce vol d'essai semble plutôt réussi, malgré ses problèmes.
Alors on peut avoir cette appréciation positive si on a tendance à voir le verre à moitié plein. Mais il ne faut pas se cacher les difficultés restant à surmonter, ce qui semble très douteux dans le cadre du calendrier du programme lunaire Artemis. Je rappelle à nos auditeurs que la NASA avait choisi en 2021 le Starship pour assurer le rôle du HLS, Human Landing System, c'est-à-dire système d'alunissage humain. Une navette assurant le transport aller-retour des astronautes entre leur vaisseau, restant en orbite autour de la Lune, et la surface lunaire. Comme je l'ai expliqué dans les deux précédentes chroniques, le nouvel administrateur de la NASA nommé en décembre, Jared Isaacman, un milliardaire proche d'Elon Musk et fervent adepte du New Space, donnant une part de plus en plus grande au privé dans le domaine spatial, a complètement chamboulé l'agenda du programme Artemis lors de deux conférences de presse en février et mars. Il a décidé que la prochaine mission Artemis 3 serait une répétition en orbite terrestre des manœuvres nécessaires pour le retour sur la Lune avec Artemis 4, dont notamment des rendez-vous spatiaux entre la capsule Orion et le futur HLS, et il prévoit cette mission dès la mi-2027. Cela veut dire que le Starship devrait être prêt pour ces opérations délicates, impliquant des mouvements précis à proximité d'une capsule hébergeant un équipage, d'ici un an, alors qu'il n'a encore jamais réussi une orbite terrestre complète. Pour réaliser cette mission dans les délais, Jared Isaacman semble prêt à remettre en cause le choix du Starship, en laissant la possibilité de le remplacer par l'offre concurrente de Blue Origin, société spatiale de Jeff Bezos d'Amazon, si elle est prête en premier. Son prototype de futur HLS, Blue Moon Mark 1, doit bientôt tenter de se poser au pôle sud de la Lune, mission prévue ce printemps et que Blue Origin prépare avec la NASA, l'engin ayant terminé début mai les tests de résistance au vide et au froid spatial dans l'énorme chambre à vide du Johnson Space Center à Houston. Mais l'arrivée sur la Lune n'est maintenant prévue que pour la fin d'année, d'autant plus que le lanceur lourd de Blue Origin, le New Glenn, a raté en avril la mise en orbite d'un satellite. Pour compléter cette perspective de futures missions humaines du Starship, je veux souligner un détail assez risible de la retransmission vidéo de vendredi. En effet, pendant le long remplissage des réservoirs de la fusée, séquence assez ennuyeuse où il ne se passe pas grand-chose, SpaceX diffuse quelques séquences plus ou moins publicitaires sur Starlink, les opportunités de carrière offertes par la société, etc. Et il y a eu aussi une petite séquence sur l'objectif martien qui obsède tant Elon Musk. D'ailleurs, les images du pas de tir cadrent souvent une énorme pancarte « Gateway to Mars » au pied de la fusée, c'est-à-dire « la porte vers Mars », pour rappeler cette perspective utopique. Et on a donc eu droit à une petite liaison avec un futur astronaute en entraînement sur une île isolée de l'Atlantique Sud. Il s'agit en fait du milliardaire Chun Wang, d'origine chinoise, qui a fait fortune dans les crypto-monnaies. Il a déjà financé la mission privée FRAM-2, ayant permis en avril 2025 à un équipage de 4 astronautes, dont lui-même, d'orbiter à bord d'une capsule Crew Dragon pendant 4 jours, sur une trajectoire les faisant survoler les deux pôles terrestres. Il veut maintenant réaliser un vol privé du Starship autour de la Lune, un peu comme la dernière mission Artemis 2 de la NASA. Mais il vise plus loin, car il prévoit ensuite de réaliser une mission analogue autour de Mars, convaincu que cette étape sera nécessaire avant d'envisager l'exploit plus risqué de s'y poser et d'en redécoller. Il y a juste un petit problème. Si on veut aller faire un petit tour de la Lune, en une semaine environ, ça a été 9 jours pour Artemis 2, une mission martienne ne peut durer moins de 2 ans, rythme auquel les mouvements de la Terre et de Mars autour du Soleil rapprochent les deux planètes à une distance qu'on peut franchir dans un temps raisonnable. Donc, quel que soit le prix exorbitant que ça coûterait, je trouve totalement débile de partir 2 ans dans l'espace, avec tous les risques que cela comporte, juste pour aller survoler la planète rouge, ce que font très bien des sondes depuis des décennies. C'est encore un exemple flagrant de la propagande muskienne, si je peux dire, qui nous annonce toujours le voyage martien comme imminent, mais dont l'échéance recule année après année.
Et pendant ce temps-là, la Chine poursuit son chemin dans l'espace.
Je répète souvent ici que l'agence spatiale chinoise, CNSA, a pour habitude de respecter scrupuleusement ses plannings, même si elle reste souvent discrète sur ses programmes, ce qui la place comme un sérieux concurrent de la NASA pour le retour des hommes sur la Lune, puisqu'elle a plusieurs fois répété qu'elle prévoyait d'y poser un taïkonaute au plus tard en 2030, ce que la plupart des observateurs traduisent par 2029, année du 80e anniversaire de la République populaire de Chine. En ce qui concerne les séjours de longue durée dans l'espace que nous venons d'évoquer avec Mars, elle est en passe de réaliser un nouveau record. Dimanche soir, le vaisseau Shenzhou 23, propulsé par la fusée Longue Marche, a décollé du centre spatial Jiuquan, dans le désert de Gobi, pour rejoindre lundi la station spatiale Tiangong, ce qui en français veut dire palais céleste, ou Tianhe, harmonie céleste, du nom de son module central. Ce pourrait être une mission de routine consistant à relever les 3 taïkonautes de l'équipage de la station qui effectuent habituellement des séjours de 6 mois, un rythme analogue aux 7 astronautes de l'ISS, la Station Spatiale Internationale, comme notre Sophie Adnone Nationale arrivée à bord le 14 février et qui devrait la quitter en octobre, soit après environ 8 mois. Mais la mission chinoise est inhabituelle, car pour la première fois, elle comprend une taïkonaute de Hong Kong, Li Jiaying, je suppose que ça se prononce. Et surtout, il est prévu qu'un des deux autres membres de l'équipage devra rester en orbite pendant un an. On ne sait pas lequel pour le moment, car il sera désigné plus tard, je suppose surtout en fonction de leur résistance aux multiples dégradations subies par les humains pendant les longs séjours spatiaux, la perte de densité osseuse, la fonte musculaire, l'exposition aux radiations, les perturbations du sommeil et la fatigue comportementale et psychologique. Ce sera un nouveau record pour un taïkonaute chinois, le plus long séjour à bord de Tiangong à ce jour étant de 204 jours, soit presque 7 mois. Mais au niveau mondial, il est détenu par le cosmonaute russe Valery Polyakov, qui a passé 437 jours, soit 14 mois, à bord de la station soviétique Mir dans les années 1994-95, alors que côté américain, c'est Francisco Rubio, qui a séjourné 370 jours, donc un an on peut dire, à bord de l'ISS en 2022-23. Et pour ce qui concerne les femmes, Christina Kaur, avec 328 jours, presque 11 mois. Aussi dans l'ISS. On peut penser qu'une telle expérience menée par les Chinois vise à préparer de futurs séjours de longue durée sur la Lune si on finit un jour par y construire une base permanente, comme on l'envisage actuellement, voire pour de futures missions martiennes. À ma connaissance, la CNSA n'a jamais communiqué sur une mission martienne humaine, ses ambitions pour la planète rouge se limitant pour le moment à l'atterrisseur Tianwen 3, qui devrait se poser en 2029 ou 2030, pour recueillir des échantillons qui seraient rapportés sur Terre en 2031, battant probablement les Américains dans ce domaine, car la NASA a officiellement annulé en janvier, pour des motifs budgétaires, la mission Mars Sample Return, qui devait nous rapporter en 2033 les tubes d'échantillons prélevés par le rover Perseverance depuis 2021.
Vous êtes toujours à l'écoute des programmes d'Odo Radio, la radio des Hauts-de-Garonne. Voilà, c'est notre journal en ce mercredi 27 mai, toujours avec Michel Favré pour sa 134e chronique astro. Et là, Michel, vous allez aborder la deuxième partie avec le ciel du mois.
Oui, à part la Lune dont on va parler à propos de l'opération The Moon Again, je vais quand même évoquer ce qu'on peut voir d'autre dans le ciel. Et comme chaque mois, je renvoie nos auditeurs vers la rubrique « Ciel du mois » de la section astronomie de notre site web, hein, je rappelle www.constellationsetgalaxies.org, pour voir les cartes du ciel correspondantes, hein, difficile de les montrer à la radio, et avoir plus de détails. Je les mettrai à jour pour juin ce week-end. Approchant du solstice d'été du 21 juin, jour le plus long de l'année, donc nuit la plus courte, nous entrons dans une période moins favorable pour les observateurs du ciel nocturne. En effet, en ce moment, le soleil se couche après 21h30 et la nuit n'arrive que vers 23h, et même minuit si on attend un ciel bien noir. Fin juin, les jours auront encore un peu rallongé et ce sera un quart d'heure plus tard, avec le coucher vers 21h45 et la nuit vers 23h15. En cette fin de printemps, les constellations typiques de la saison occupent la plus grande partie du ciel, côté sud. On pourra reconnaître facilement le Lion, situé juste sous les pattes de la Grande Ourse, repérable aux étoiles dessinant sa crinière qui forme comme une faucille. À 23h, il est déjà basculé vers l'ouest pour aller se coucher. C'est avec la fameuse casserole, formée par les étoiles les plus brillantes de la Grande Ourse, qu'on trouve facilement les deux autres grandes constellations du printemps, car en prolongeant l'arc de sa queue, on tombe presque plein sud sur Arcturus, étoile très brillante et légèrement jaunâtre de la constellation du Bouvier, et en poursuivant plus loin Spica, l'étoile la plus brillante de la Vierge. Cette région du ciel, derrière le Lion et au nord de la Vierge, est particulièrement riche en galaxies, qu'on peut facilement voir dans une lunette astronomique ou un petit télescope. Donc il n'y aura pas que la Lune à observer pendant les soirées On the Moon Again. Même si étant assez proche et assez grosse, sa clarté sera gênante pour observer ces petites galaxies, mais il y a bien d'autres curiosités à voir dans le ciel. À l'est, ce sont les constellations de l'été qui se lèvent, repérables à partir des trois étoiles brillantes qui forment le triangle de l'été, Vega, la plus haute, Deneb, la plus à l'est, et Altaïr, la plus basse, en ce moment encore très près de l'horizon, permettant de situer leurs constellations respectives de la Lyre, du Cygne et de l'Aigle. Si le ciel est assez noir, on pourra distinguer plus tard dans la nuit, le long du Cygne et de l'Aigle, le ruban laiteux de la Voie lactée nous conduisant vers le sud à deux autres constellations bien reconnaissables, du Sagittaire et du Scorpion. Et toute cette région de la Voie lactée est riche en amas d'étoiles et nébuleuses, autant d'objets intéressants à viser avec un télescope. En fin de mois, la situation aura notablement évolué, avec en début de nuit les constellations de l'été déjà levées et occupant la moitié est du ciel, repoussant celle du printemps dans la moitié ouest, avec le Lion près de se coucher. Côté planète, le soir en ce moment, on peut apercevoir Mercure, mais difficilement car assez basse dans les lueurs du crépuscule, se couchant en ce moment vers 23 heures. Elle atteindra sa hauteur maximum un peu avant la mi-juin, avant de redescendre pendant la deuxième moitié du mois. Par contre, on ne peut pas rater la très brillante Vénus, même si elle est déjà assez basse au nord-ouest, ainsi que Jupiter, pratiquement deux fois plus haute. Je rappelle à nos auditeurs que dans une simple paire de jumelles, on peut voir ces quatre principaux satellites, dont les positions changent en quelques dizaines de minutes. Et bien sûr, encore mieux dans un télescope qui révélera aussi les bandes atmosphériques qui strient la planète géante. Jupiter descend vers l'ouest et le Soleil jour après jour. Donc il vaut mieux l'observer en début de mois et en début de nuit. Actuellement, il se couche vers 1h, mais fin juin, ce sera dès le début de nuit. Vénus, elle, reste à peu près dans la même position par rapport à l'horizon et se couche vers minuit. Cela veut dire que les deux planètes se croiseront dans le ciel le mardi 9 juin, au plus serré, mais si on peut les observer les jours précédents et suivants, on pourra constater le mouvement relatif de ces deux astres, Vénus montant vers Jupiter avant de le dépasser en hauteur. Avec ce ciel pauvre en planète, il y aura peu de conjonctions observables avec la Lune, seulement le mercredi 17, où le fin croissant sera juste sous Vénus, avec même pas la largeur d'un doigt bras tendu pour les séparer.
Alors concernant la Lune, Michel, qu'est-ce qu'on peut voir dans un petit télescope ?
Alors pour une fois dans cette rubrique, je vais évoquer effectivement la Lune lors des soirées On the Moon Again, le week-end du 21 juin, qui est le solstice d'été, jour le plus long de l'année, et aussi la fête de la musique. Je rappelle à nos auditeurs que dans une simple paire de jumelles modernes, on voit les reliefs lunaires avec bien plus de précision que ce que pouvait distinguer Galilée dans sa petite lunette quand il a braqué vers elle en 1609. Mais bien entendu, avec les plus forts grossissements permis par les lunettes et télescopes que vous prêteront les astronomes lors de ces soirées, on peut voir beaucoup plus de choses. Les régions les plus intéressantes à observer sont celles proches du terminateur, comme on appelle la limite entre la partie éclairée et celle plongée dans la nuit, car c'est là que les ombres très allongées permettent de mieux percevoir les reliefs. Malheureusement, comme je l'avais déjà expliqué l'an dernier, l'éclairage de la surface lunaire varie beaucoup d'un jour à l'autre. Donc il m'est difficile de donner les détails selon que les observations se dérouleront le vendredi 19, le samedi 20 ou le dimanche 21, les trois soirées prévues par les organisateurs de l'opération, avec une lune qui passera d'un croissant de 30% à un très gros croissant de 40%, puis le premier quartier. Je me limiterai donc à quelques considérations générales, les zones éclairées favorablement étant donc les régions situées entre le bord est et le centre. Le vendredi, ce sera par exemple la mer des crises, dénomination très inexacte puisqu'il n'y a pas d'eau sur la Lune et que les régions plus sombres qu'on désigne ainsi sont en réalité de grandes plaines de basalte grise. Avec les deux petits cratères Pierce et Picard qui peuvent figurer des yeux, elle fait penser à une sole, hein, le poisson. Plus au sud, sur la mer de la Fécondité, le double cratère Messier, probablement formé par un seul astéroïde ayant ricoché en raison de son faible angle d'arrivée. Avec leur longue éjection claire rectiligne, ils évoquent comme une comète. Et encore plus au sud, le gros cratère Janssen, qui montre des reliefs compliqués avec plusieurs cratères imbriqués. Le samedi, on pourra voir les cratères Hercule et Atlas, puis sur la mer de la Tranquillité, le tout petit cratère Moltke, permettant de situer le site d'alunissage d'Apollo 11. Et près du centre du limbe lunaire, le trio de gros cratères, Théophile, Cyril et Catherine, avec juste en dessous la grande falaise Altaï de 480 km de longueur. Le dimanche, avec un terminateur au milieu du limbe, on pourra à peine voir un petit bout des arcs montagneux des Alpes et des Apennins qui bordent la mer des pluies vers le nord. Plus au centre, l'éclairage rasant devrait révéler les rainures qui parcourent la mer des vapeurs. Ce genre de formations sont un peu comme des craquelures provoquées par le refroidissement de la croûte lunaire qui se contracte. Et vers le sud, une abondance de cratères de toute taille, dont le gros Maurolicus de plus de 100 km. Mais à côté de ces formations vedettes que j'ai citées, les astronomes qui vous accueilleront pour observer avec les télescopes ne manqueront pas de vous montrer d'autres reliefs pittoresques, car l'éclairage changeant de la surface lunaire révèle toujours des configurations intéressantes, parfois pendant seulement quelques dizaines de minutes, comme par exemple des points lumineux isolés au-delà du terminateur, qui sont des pics sur lesquels le Soleil est en train de se lever alors que leur base est encore plongée dans l'ombre.
Voilà, toujours notre journal en ce mercredi 27 mai, toujours avec Michel Favre, chronique astro numéro 134. Et là, Michel, vous allez aborder la troisième partie de votre chronique avec le thème, le sujet du mois, bien sûr. Vous en avez parlé plusieurs fois, mais vous allez rentrer dans le vif du sujet avec « On the Moon Again ».
Avant de passer la parole à nos invités, un petit rappel concernant « On the Moon Again ». C'est une opération mondiale lancée à l'initiative d'astronomes français en 2019 pour commémorer les 50 ans des premiers pas de l'homme sur la Lune. Devant le succès de cette première édition, les organisateurs ont décidé de la renouveler chaque année. Le principe de l'opération est de demander aux astronomes possédant un instrument, lunettes ou télescope, dont bien sûr les clubs d'astronomie, d'aller les installer près du public pour observer la Lune tous ensemble. Sur le site de On the Moon Again, on pourra trouver toutes les animations prévues pour l'opération en France, déjà plus de 400 inscrites selon les organisateurs, et d'autres dans le monde entier, l'événement s'étant propagé à 62 pays. Cette année, elles se dérouleront donc le week-end du solstice d'été, du vendredi 19 au dimanche 21 juin, mais tous les sites ne proposent pas des observations chaque soir, et il faudra aussi tenir compte des conditions météo. Je laisse donc la parole à nos invités pour nous détailler ce que proposeront leurs associations.
Voilà, et puis il y aura quelques relances avec d'autres infos. Merci Michel, mais on vous garde bien sûr jusqu'à 13h. Allez Corinne, juste quelques mots. Bien sûr, c'est toujours important en radio de rappeler dans les grandes lignes toute l'émission de notre asso et puis bien sûr le focus, le vif du sujet, c'est On the Moon Again. Mais voilà, même si on est ravis de vous retrouver, il faut quand même repréciser, ne serait-ce qu'en quelques mots, à G33, astronomie Gironde 33.
Oui, bonjour. Excusez-moi pour ma voix raillée. Je sors d'une grosse angine.
Bon, on vous excuse. Ça va mieux quand même, Corinne ?
Oui, oui, oui.
Bon.
Donc voilà, je suis chef donc partie d'Astronomie Gironde 33, qui est une asso qui s'est créée pour essentiellement faire de l'animation et transmettre la science de l'astronomie. Bien sûr, sans oublier de nous faire plaisir à nous, astronomes amateurs, avec de la recherche, de la science, de la collaboration pro am. Mais vraiment, notre dada, c'est vraiment le partage sur le terrain. On est rarement en salle, mais s'il pleut, tant pis, on annule. Mais nous, notre sacerdoce, c'est dehors avec des télescopes.
Voilà, au plus près du public également. Hein,
parce voilà, une passion, oui, oui, oui.
Mais ce qui vous anime aussi, c'est ce partage. Hein, voilà, de partager auprès d'un public,
en fait,
qu'il soit érudit, initié voilà, ou
l'idée,
pas, néophyte.
L'idée, c'est de montrer que l'astronomie est abordable par tout le monde. On n'est pas obligé d'avoir un gros instrument, une simple paire de jumelles. Et d'avoir de grandes connaissances, hein, je veux dire, pas
c'est
besoin d'avoir faire l'ENA.
Voilà, mais je présume que voilà, quand on devient entre guillemets à accro, on a envie de prolonger. Mais Michel, vous intervenez quand vous voulez, hein, si vous levez la main, vous êtes chez vous. Hein.
L'ENA n'est peut-être pas une bonne référence, parce que nos politiques sont très peu scientifiques, en fait. Par contre, j'ai l'habitude de dire que moi, pour les clubs d'astronomie, effectivement, on n'est pas forcément des scientifiques de haut niveau, en disant que ce qui nous motive d'abord, c'est l'observation des choses intéressantes à voir dans le ciel. Et je compare ça souvent aux gens qui prendront une paire de jumelles pour aller voir des oiseaux, des canards au bord des étangs, qui n'ont pas besoin de connaître toute la vie de ces animaux pour apprécier la vue. Et juste, Corinne, tu pourrais peut-être préciser que vos animations, enfin vos observations, se passent surtout au sud de Bordeaux à cause de la pollution lumineuse. Du côté de Socat, si je ne me trompe pas.
Effectivement, oui, notre site favori, on va dire, entre guillemets, c'est le mémorial de la ferme de Richemont à Socat, car c'est un lieu public avant tout. Mais surtout, grâce au monument, hein, qui est un gros obélix d'une trentaine de mètres, il n'y a aucune construction de plus de 2 mètres, hein, c'est interdit par les architectes de France. Sur un rayon, j'ai pas trop calculé, mais enfin, on a des horizons super dégagés, et c'est surtout ça qui fait l'essentiel, car pour l'observation astronomique, sans maison, qu'avec des champs, ben on a quand même une atmosphère un peu plus stable, et surtout vers le sud, pas de pollution lumineuse, ce qui est pas le cas du nord puisqu'il y a Bordeaux. Mais bon, voilà, c'est essentiellement. Alors attention, je reviens sur tes canards, c'est quand même bien de connaître la vie des canards, hein. Parce que observer.
On est d'accord hein, avec Nicolas, on fait partie d'une association de sauvegarde.
Observer, c'est bien. Connaître beaucoup de choses, c'est mieux. Bon. Et puis des fois, donc, se tourner vers les professionnels pour en savoir plus, parce que eux étudient vraiment au cœur de la meule, comme on peut dire.
Allez, on the road again, donc ça c'est inscrit dans le paysage, j'allais dire, astronomique. Donc comment on prépare un événement comme celui-ci qui revient chaque année? Alors on parle de SOCATS, après je sais que pour la Nuit des Étoiles vous êtes partenaire d'autres événements, mais chaque chose en son temps. Alors comment on prépare un événement par rapport à un événement national?
Alors déjà on se greffe sur un événement que nous a demandé la ville de Tresse. Le 19 juin.
Notre bonne rive droite, on est
oui,
Chauvin, n'oubliez pas.
N'est-ce pas. Et donc, on va déjà commencer par là, hein, On the Moon Again. Donc, ce sera le vendredi 19. Et le lendemain, on va avoir deux événements, en fait, au sein d'AG33. Ben, un, nous, d'abord, on va aller au mémorial, parce que, du coup, on n'a pas eu le prêt pour le 20, samedi 20. Mais il y aura surtout un événement à Bouliac, sur la place de la mairie. Par un de nos membres, donc, qui va y aller avec son télescope et deux, trois amis du club. Voilà, où il fera effectivement, avec l'autorisation du maire, une petite soirée observation de la Lune.
Bouliac, alors nous on connaît bien sûr, c'est la redoute, c'est une première à Bouliac, parce que c'est vrai, on est un petit peu dans les hauteurs.
Alors, oui et non. En fait, l'année dernière, c'était programmé, mais il a tellement fait pas beau. Que,
donc ça, c'est Louis qui s'est transformé en an.
Voilà, bon, ça a été annulé.
Ce n'était que partie remise.
Voilà. Et nous, on va renouveler cette On the Moon Again en juillet, le samedi 25, mais cette fois au cœur de SOCATS. Voilà, sur le pré communal, avec la commune qui joue le jeu, voilà, pour observer la Lune. Mais le 25 juillet, voilà, sinon on participera bien au mois de juin, dans le week-end.
Bon, on a noté, hein, et puis il y aura d'autres occasions. N'hésitez pas à compléter, Corinne, hein, parce qu'on va se tourner vers Thierry, donc président de la SAB, Société Astronomique de Bordeaux. Donc même question, rappelez-nous en quelques mots. Hein. Ça paraît redondant chaque fois de le repréciser, mais là, à partir du postulat, que même si beaucoup vous connaissent, mais en quelques mots, pareil, une association de passionnés. Hein.
Oui, merci beaucoup.
Ça, c'est le lien, le fil rouge. Hein.
Oui, la Société Astronomique de Bordeaux, ben, elle a été créée en 1909. Une vieille asso, et elle est spécialisée elle fait beaucoup moins d'observations que AG33. Nous, on organise beaucoup des conférences où on fait venir des chercheurs, notamment ceux de Bordeaux, parce qu'il y a deux gros pôles de recherche d'astronomie à Bordeaux, le laboratoire d'astrophysique et le laboratoire des deux infinis. Et donc, on a toute une pépinière de chercheurs, de post-docs, de doctorants qui viennent nous présenter leurs travaux. C'est sur un rythme de deux conférences par mois, le mercredi à 18h30, et elles sont libres d'entrée, libres et gratuites. Voilà. Pour la fête de la. Pour le. Pardon, On the Moon Again, donc nous, on sera installés sur les quais, à la hauteur du cours de la Martinique. Donc, on descendra nos instruments. Et les dernières manifestations, on a. Comme on est sur un lieu très public, on avait accueilli à peu près 300 personnes. Donc on vous invite tous à venir nous voir à cet endroit-là, vers le cours de Martinique, sur les quais.
Redonnez la date.
Ce sera le samedi 20 juin. Bon. Pardon. Et le dimanche 14 juin, on va faire la même chose au jardin public, pour l'occasion du Festival du Soleil. Là, ça sera donc le dimanche après-midi. Et on pourra observer le soleil, il y aura plein d'animations faites autour de cet astre.
Voilà. Donc le Bordeaux intramuros. Hein,
Bordeaux intramuros.
Vraiment, ce sont des lieux, parce que les conférences, ça, c'est régulier tout le long de l'année, mais quand vous êtes hors les murs, ce sont des lieux que vous affectionnez, parce que le choix du lieu, du spot, hein, chacun mettra le jargon,
depuis
Bordeaux, c'est quand même important.
Voilà, depuis Bordeaux, c'est à peu près les deux seuls astres qu'on peut voir, c'est le soleil et la lune, parce qu'autrement, il y a une pollution telle que... On laisse la place aux autres associations qui font ça très très bien.
Mais c'est bien d'avoir néanmoins sur Bordeaux même si avec la pollution lumineuse, il faut s'adapter. Hein.
Voilà, tout à fait.
Qu'est-ce que vous pourriez dire pour compléter sur ces deux événements? Bien sûr, c'est ouvert à toutes et tous.
On remercie déjà la ville de Bordeaux de nous permettre de nous installer sur l'espace public.
Une manifestation publique, bien sûr, c'est assujetti à autorisation. Hein.
Oui,
parce que là, on peut drainer du public, là, oui. c'est le but. Voilà. Donc, comme partenaire, bien sûr, la ville de Bordeaux.
Voilà, et puis, écoutez, on espère que vous viendrez nombreux à ces deux événements.
Voilà, je ne sais pas si vous complétez. Après Michel, je sais qu'il a d'autres infos aussi à donner. Donc n'hésitez pas, bien sûr, à compléter. Là, il nous reste un quart d'heure, donc on a le temps. Je ne sais pas si Michel voulait rebondir sur les propositions ou Corinne. Après, je sais que Michel a d'autres événements à annoncer. Corinne, allez-y, bien sûr.
Oui, en fait, je vais rebondir aussi sur le Festival du Soleil. Mais nous, on le fera le week-end après. Bon. On le fera le 27 à Socat, 27 juin. Au centre de Socat, hein, le Festival du Soleil. Et le lendemain, on sera à Sadirac pour... ça sera pas le Festival du Soleil, ça s'appelle autrement, mais c'est la même chose. C'est une animation solaire. Donc, on observe le soleil, on apprend autour, il y aura une maquette du système solaire de 12 mètres, il y aura un jeu solaire auquel on pourra peut-être gagner, si on est assidu, une paire de lunettes à éclipse, qui sera sûrement très intéressante et très recherchée au mois d'août. Je laisse Michel nous parler de tout ça.
Voilà, je vois que c'est bien organisé, les liens. Après, on redonnera bien sûr toutes les infos concernant vos sites internet pour retrouver toutes les dates et tous les rendez-vous. Alors Michel, je sais que vous allez compléter, bien sûr.
Non, moi, je
on va pas être exhaustif, mais si vous voulez rebondir, allez-y, c'est le mot.
Je voulais juste apporter un petit témoignage.
Allez, témoignage.
Parce que... souvent, dans les animations que proposent les clubs astro, pour par exemple les Nuits des Étoiles, on demande au public de venir chez nous, sur nos sites d'observation habituels, etc. Alors que la philosophie de Once a Moon Again, voulue par les organisateurs, c'est l'inverse, c'est-à-dire essayer d'amener les télescopes vers le public. C'est pour ça que nous, par exemple, je prends mon exemple en Dordogne, on va aller s'installer en plein centre du village, ce qui habituellement n'est pas notre lieu d'observation à cause de tous les éclairages qu'il y a autour. Mais la municipalité nous les éteint pour la soirée. Et je trouve intéressant les propositions de la SAB, la Société Astronomique de Bordeaux, puisqu'il s'agit d'observer directement en ville, ce qui correspond bien à cette idée-là. Et en écoutant Thierry, ça me rappelait, j'ai fait il y a longtemps, plus de 20 ans maintenant, un voyage au Chili. Et en pleine ville de Santiago, il y a des astronomes qui sortent une petite lunette sur le trottoir. Et pour, je pense qu'à l'époque, ça devait être 100 pesos qui devait faire moins d'un euro, ils proposaient de regarder dans la lunette pour voir soit les reliefs de la Lune. Moi, quand j'y étais, c'était même aussi les anneaux de Mars, de Saturne, pardon, les anneaux de Saturne. Et donc, effectivement, il y a des pays où, comme ça, on a l'habitude d'aller mettre des télescopes dans la rue pour regarder le ciel.
Si vous voulez compléter, Michel, sur les événements, parce que je sais que vous avez plein d'autres infos, on pourra pas être exhaustif, mais vous allez donner néanmoins sur quel site internet on peut avoir les bonnes infos, parce qu'on peut nous écouter par internet, voilà, de n'importe quel lieu.
Oui, alors par rapport à l'agglomération bordelaise, on peut pas recevoir tous les clubs astro, et il y a bien sûr le site On the Moon Again. Qui donne des informations sur les animations inscrites. Et on peut parfois les compléter aussi avec le site de l'AFA, l'Association Française d'Astronomie. Et j'ai pu trouver ces autres rendez-vous. JAL Astronomie proposera une fête du Soleil et de la Lune sur le site de son observatoire à Martignas-sur-JAL le samedi 20 à partir de 14h30 pour l'observation du Soleil, puis 21h pour la Lune et le ciel nocturne. Avec aussi la projection de films, constellations et mythologies réalisés par le club. Et le club Abera de Bègle proposera une observation le vendredi 19 juin à son observatoire qui est situé au square Sulle. Donc pour conclure ces calendriers, en ce qui concerne O2 Radio, sauf imprévu, notre prochaine chronique astro sera le mercredi 24 juin et la suivante le 29 juillet. Et ce sera justement l'occasion de retrouver à nouveau nos invités ainsi que Vega de la Lyre pour nous parler de leurs animations pour les Nuits des Étoiles qui se tiendront une dizaine de jours plus tard, le week-end du 7 et 9 août. Rendez-vous annuel du public avec le ciel dont le succès n'a jamais faibli depuis plus de 30 ans qu'elles existent. Même si elle est plus récente, l'opération On the Moon Again est une autre possibilité d'observer le ciel au télescope et j'invite nos auditeurs à y participer en nombre. Et je voulais rajouter un tout petit truc. C'est que juste après les Nuits des Étoiles, il y aura la fameuse éclipse du 12 août. Éclipse impressionnante, la plus impressionnante depuis l'éclipse totale de 1999, puisque dans la région bordelaise, le soleil sera masqué à plus de 97%. Donc il restera un tout petit fin croissant de soleil visible. Je rappelle à nos auditeurs que pour observer les éclipses, il faut absolument se protéger les yeux avec des lunettes spéciales éclipses, comme l'a évoqué Corinne. Et malheureusement, Il est à craindre que ces lunettes finissent par devenir un peu difficiles à trouver, plus on se rapprochera de la date. Donc j'invite nos auditeurs qui voudraient voir cette éclipse à s'en procurer le plus rapidement possible. On les trouve bien sûr dans les magasins spécialisés en astronomie, mais aussi, je pense, la plupart des opticiens. Moi, par exemple, dans ma petite ville de Dordogne, je sais que l'opticien a prévu un stock de lunettes spéciales éclipse à vendre au public. C'est des dispositifs vraiment peu chers, c'est du carton avec un filtre spécial, et ça coûte quelques euros, à vue de nez comme ça, dans les 2-3 euros la paire. Donc c'est vraiment pas un gros investissement, mais c'est indispensable si on veut observer d'éclipse.
Voilà, c'est plus qu'un conseil, bien sûr, faut respecter. Donc on aura l'occasion de se revoir notamment pour les nuits des étoiles. Nous, on aura également Cap Science en amont. Donc on va faire un dernier tour de table. Déjà, pour la nuit des étoiles, Corinne, également, parce qu'il faut prévoir, faut anticiper également. Donc,
oui, on en reparlera dans un moment. Voilà. Parce que là, vraiment, je suis focus sur les autres animations.
Oui, puis quand je vois tout le nombre de rendez-vous de lieux différents, je présume que ça fait...
J'évite de mélanger, sinon j'oublie les trucs. Monde. Par contre, je voudrais revenir sur aussi l'observation de l'éclipse. Faut pas oublier qu'il y a d'autres façons de regarder les éclipses, et une simple passoire à nouilles suffit. Hein, pas besoin d'aller chercher bien loin. Mais
le
on pourra,
conseil de Corinne.
On pourra en reprendre. Mais oui, on l'a
c'est
fait.
C'est la fête des mères bientôt. Vous voyez, vous pouvez faire un cadeau, puis ça
on
peut
l'a
faire
fait lors de la dernière
usage.
Éclipse partielle qui était l'année dernière, en 2025. On a testé, ça marche très très bien.
Bon.
Et sinon, pour finir sur le lapsus de Michel avec les anneaux de Mars, pour rétablir la vérité, c'est vrai que dans quelques milliers d'années, Mars aura sûrement des anneaux. Bon. Avec sa lune qui va s'éclater sur sa limite de roche.
On ne sera pas là pour commenter.
Non, dommage.
Mais,
mais voilà.
Mais c'est bien de...
Peut-être que Michel aurait aimé être là et voir ça, quoi, comme tous les astronomes d'ailleurs, je pense.
Oui, mais bien sûr, c'est plus qu'une passion. Donc,
voilà, pour finir, je vais donner juste l'adresse internet de notre asso, www.ag33.fr. N'hésitez pas à nous rejoindre.
Ça permet d'avoir toutes les infos. Il y a un système de newsletter, Corinne, je sais que certains le font, c'est encore du travail. Je ne veux pas vous en rajouter, rassurez-vous.
Non.
Bon, donc il faut aller sur le site.
Il faut aller sur le site, on a Facebook qui marche pas mal.
Bon, les réseaux sociaux, voilà, ça permet d'être réactif,
exactement.
Bien sûr. Bon, très bien. Thierry, un petit peu la même question. Si vous voulez revenir, on a 2 ou 3 minutes là avant de se quitter. Si vous voulez revenir, rebondir sur des infos, sinon à minima.
Notre site donne le programme de conférences mis à jour perpétuellement. Donc là, vous tapez Société Astronomique de Bordeaux et vous tombez sur le site. Il y a un onglet conférences. Et je vous invite donc à notre prochaine conférence qui sera le 6 juin sur les ondes gravitationnelles. C'est Pascal Bordet. Qui est maintenant au laboratoire des infinis, qui viendra nous en parler.
Voilà, et c'est en accès libre, c'est éducation populaire.
Oui, c'est en accès libre.
Voilà. Après, on peut
vraiment...
vous soutenir néanmoins, parce que vous êtes en association.
Oui.
Donc ça, c'est des fois, c'est des petits conseils, surtout quand on a des conférences ou des événements en libre accès. Des fois, ça peut être sympa d'adhérer à une association.
Ah, complètement, merci.
ça peut être un petit coup de pouce. Donc toutes les infos sur le site internet.
Voilà.
En prochaine conférence, le 6, il y en aura d'autres. Et puis,
voilà, le 6, c'est libre et gratuit. Et surtout, c'est des conférences qui ne sont pas faites pour des spécialistes. Elles sont faites par des spécialistes, mais pour des publics
pour
non avertis.
Public.
Donc, que vous ayez un grand ou un faible, moyen niveau de connaissance, vous allez retrouver votre compte.
Très bien. Là, comme on va clôturer, je ne sais pas si vous voulez compléter, Corinne et Thierry, là, on va arriver à la fin.
À part que
n'hésitez
nous,
pas. Hein.
On est vraiment une association qui ne fonctionne pas comme tout le monde et on ne demande pas d'adhésion, en fait. Parce que nous, les adhérents, on préfère avoir des astronomes amateurs avertis qui sont capables eux-mêmes, quoi, en tout cas quand on l'envie, de faire de l'animation et de transmettre. Donc voilà, les débutants, ils viennent sur le terrain, on leur enseigne tout ce qu'ils veulent, la lecture du ciel, se servir d'un télescope ou de jumelles, et tout ça c'est gratuit, voilà, faut qu'ils viennent.
Mais c'est bien le procédé.
Mais attention, on n'a pas de locaux, pas comme la Société Astronomique de Bordeaux, qui doit sûrement payer des fluides, bon voilà. Donc oui, et en plus, pour assister aux conférences, il y a quand même un travail derrière, il faut faire venir le conférencier,
etc. Bien sûr, il y a la logistique, de la communication, mais
donc effectivement, des adhésions, ce serait pas mal. Mais voilà, nous, non.
Attendez, c'est bon pour le micro. Parce que comme le voyant, il a l'air d'être fatigué. On a une éclipse de voyant. Thierry, allez-y.
C'est que l'ASA propose aussi, pour les établissements scolaires, que ce soit les écoles, les collèges ou des lycées, des interventions qu'on peut faire, là aussi, gratuitement, auprès des écoles, sur une première approche notamment du système solaire et puis des grandes beautés de l'univers.
Une association aussi, parce que je sais que là, vous avez tout l'été, par exemple, il y a un programme qui est initié par le conseil départemental, Cap 33, donc beaucoup de sport, mais ça peut être la culture, etc. Et ce sont des animations qui sont proposées l'été, notamment bien, pour un public qui ne part pas en vacances. Après, on peut partir en vacances et puis avoir... Donc ça peut être le cas aussi, si une structure vous dit...
Pour l'été, non, on n'a pas les moyens, mais ça se fait plutôt dans les années scolaires avec... Et là, on demande, les professeurs nous contactent par notre mail.
Bon, mais tout est expliqué
voilà, tout à fait.
Sur le site. Bonne intervention. Thierry Corinne, merci beaucoup. Certainement à très bientôt par rapport à Nuit des Étoiles. Michel, ben, vous allez voir le mot de la fin. Je ne sais pas si vous voulez rappeler des infos. Là, vous avez tout précisé, les prochains rendez-vous. Donc, si vous voulez repréciser, là, vous avez une, deux minutes avant qu'on se quitte en musique.
Je pense qu'on a dit l'essentiel. Donc, pour les dates officielles de On the Moon Again, puisque AG33 prolonge ou anticipe à d'autres dates, c'est le week-end du 21 juin, donc du vendredi 19, samedi 20 ou dimanche 21. Les Nuits des Étoiles, ce sera début août, du 7 au 9 août, et suivi le mercredi suivant par l'éclipse. Et donc, tous ces rendez-vous, en plus ceux que Corinne a précisé pour AG33 et les conférences de la SAB, on peut les retrouver sur les différents sites web de nos invités.
Voilà, puis on n'hésite pas à partager nous-mêmes par les réseaux sociaux. Allez, merci à tous les trois pour l'enthousiasme habituel.